À Beyrouth, des extrémistes armés prennent le contrôle d'un avion pour pouvoir faire une déclaration de nature politique. Ils terrorisent l'équipage et les passagers, dont deux citoyens américains. Comme des Américains sont de plus en plus souvent attaqués à l'étranger, le FBI et la CIA entreprennent la dangereuse tâche d'arrêter un pirate de l'air pour envoyer un message clair aux terroristes du monde entier. Le 11 juin 1985, 66 passagers, notamment un professeur d'université et son fils, prirent le vol 402 de la Royal Jordanian à Beyrouth, au Liban, en partance pour Amman, en Jordanie. De terroristes lourdement armés prit alors le contrôle des passagers et de l'équipage. Ils forcèrent les agents de bord à leur indiquer les agents de sécurité aérienne afin qu'ils puissent les neutraliser. Le chef des pirates de l'air entra de force dans la cabine de pilotage et ordonna aux pilotes de décoller. Une fois en vol, il demanda au capitaine de les conduire à Tunis. Le capitaine ne comprenait pas l'arabe. Le copilote dut traduire ce que le pirate disait. Celui-ci voulait forcer l'ambassadeur du Liban à rencontrer le président de la Ligue arabe, Chadli Khlibi. Le but de cette rencontre était notamment d'évacuer 20 000 Palestiniens du Liban. Pendant que l'appareil se dirigeait vers Tunis, les terroristes battirent les agents de sécurité aérienne et ils les torturèrent. Ils semblaient avoir le contrôle complet de l'avion jusqu'à l'arrivée de l'appareil dans l'espace aérien de la Tunisie. Voici l'agent spécial Tom Hansen, qui a fait partie du groupe d'intervention contre le terrorisme international.
On leur a refusé l'atterrissage. De fait, les autorités tunisiennes ont même bloqué les pistes avec des camions-citernes remplis d'eau et d'essence. Le chef de la bande a parlé à plusieurs reprises avec la tour de contrôle par radio. Ça s'est prolongé sur une certaine période de temps. Il n'a pas réussi à convaincre les autorités tunisiennes de les laisser se poser au sol.
Incapable de forcer la rencontre entre l'ambassadeur et le président de la Ligue arabe, Chadli Khlibi, le terroriste dut se contenter de lire sa déclaration au contrôleur aérien. Le pilote de l'avion qui survolait l'aéroport de Tunis voyait ses réserves d'essence diminuer dangereusement. Il parvint alors à convaincre le terroriste de se rendre à Palerme, en Italie, pour y faire le plein d'essence et éviter l'écrasement. Le vol 402 se rendit à l'aéroport italien, mais ne put se poser. Les pistes d'atterrissage avaient été bloquées là aussi. Il dit au contrôleur aérien qu'il devait absolument permettre à l'appareil de se poser, sans quoi il serait contraint d'en ramasser les débris. La tour de contrôle accepta finalement de les laisser se poser. Une fois au sol, les terroristes demandèrent qu'on fasse le plein d'essence de l'appareil. Les autorités de Palerme s'y opposèrent. Les Italiens essayaient de gagner du temps en rusant avec les terroristes.
Ils ont avisé le poste de pilotage qu'ils avaient contacté la Ligue arabe et qu'ils étaient sur le point de convaincre Chadli Klibi de venir de Tunis pour parlementer avec les terroristes.
Le pirate de l'air était sur la défensive. Pourquoi Klibi se serait-il rendu à Palerme alors qu'il avait refusé de le rencontrer à Tunis ? Après une heure d'attente, le terroriste déclara à la tour de contrôle qu'il allait jeter les cadavres de deux enfants de l'avion si les autorités aéroportuaires ne les approvisionnaient pas en essence. Dix minutes plus tard, l'avion avait été ravitaillé et s'envolait vers Tunis. Pour la seconde fois le même jour, l'appareil survola l'aéroport international de Tunis. Le capitaine annonça à la tour de contrôle que le terroriste voulait qu'on diffuse sa déclaration sur les ondes de la radio de l'État. Le contrôleur aérien lui répondit qu'il lui était impossible de retransmettre la communication faute d'équipement adéquat. Pour le calmer, le capitaine mentit au terroriste en lui disant que la tour de contrôle avait accepté de diffuser sa déclaration. Le vol 402 retourna ensuite à l'aéroport international de Beyrouth. Un autre terroriste monta à bord de l'appareil. Il ordonna à quelques enfants et personnes âgées de descendre. Il relaya un message de son supérieur aux pirates de l'air. Celui-ci devait survoler la Jordanie et la Syrie tout en lisant sa déclaration. L'avion décolla de nouveau. Mais après plus de 24 heures dans les airs, le pirate de l'air décida de faire demi-tour.
Il n'avait pas l'impression d'en avoir eu pour son argent, si on peut dire. L'appareil ne s'est donc jamais rendu en Jordanie ni en Syrie.
L'appareil survola le Liban pendant plusieurs heures avant de se poser finalement à Beyrouth. Résolus à faire passer leur message, les terroristes mirent de l'explosif plastique dans la partie avant du fuselage de l'appareil. À 9 heures du matin, le chef des terroristes contacta la tour de contrôle. Il déclara que si les 20 000 réfugiés palestiniens n'étaient pas évacués du Liban avant 14 heures, ils tueraient les otages. Voici l'agent spécial Tom Hansen.
Sans trop recevoir d'explications, les passagers ont dû quitter l'appareil et entrer dans le terminal.
Le cauchemar des passagers qui avait duré 30 heures était maintenant fini. Les pirates de l'air placèrent des grenades tout autour de la cabine de pilotage. Une fois l'appareil évacué et en présence des médias internationaux, les terroristes firent une autre déclaration, celle-ci encore plus catégorique. Les autorités fédérales américaines étaient résolues à capturer ces pirates de l'air. Pour le FBI, c'était un moment historique. Pour la première fois, l'agence pouvait légalement poursuivre des terroristes qui avaient attaqué des citoyens américains à l'étranger. Ce droit, le FBI venait tout juste de l'obtenir. Au début des années 80, le Liban était ravagé par une guerre civile. La confusion régnait au sein du gouvernement central et les milices chrétiennes et musulmanes se disputaient le pouvoir. Beyrouth, qu'on avait jadis considéré comme le Paris du Moyen-Orient, n'était plus que ruine. La situation se détériora, ce qui amena les Marines, qui faisaient partie de la force de maintien de la paix internationale, à se déployer au Liban. La violence ne fit que s'accroître. En octobre 1983, un kamikaze fit exploser un camion rempli d'explosifs à la caserne de la marine située à l'aéroport international de Beyrouth. La déflagration tua 241 militaires américains. Trois secondes plus tard, une bombe du même type détruisit la caserne de l'armée française, tuant 58 autres personnes. L'explosion à la caserne de la marine est à ce jour l'attaque ayant fait le plus de victimes américaines à l'extérieur des États-Unis. Voici Oliver Burke Revel, l'ex-directeur adjoint de la section des enquêtes criminelles du FBI.
La terrible attaque d'une caserne de la marine en 1983 a retenu l'attention du public américain pendant un bref moment. Mais on s'est vite désintéressé du sujet parce qu'on ne croyait pas que les États-Unis étaient sous une menace constante.
De nombreux Américains ignoraient que plusieurs groupes extrémistes musulmans chiites avaient déclaré une guerre de faible intensité aux États-Unis. Leur but était de forcer le départ de tous les Occidentaux du Liban. Le groupe le plus connu de ces mouvements radicaux était le Hezbollah, que les agents secrets américains soupçonnaient d'être responsable de l'explosion de la caserne de la marine américaine. Il y eut d'autres actes de terrorisme dans la région au cours de l'année suivante. La diplomatie avait échoué. Les forces de maintien de la paix s'étaient révélées inefficaces. En outre, le FBI n'avait aucun pouvoir, sinon de suivre de près les actes de terrorisme international. L'agent spécial Tom Hansen.
On n'avait aucun pouvoir pour intervenir à l'étranger ou pour poursuivre les individus qui avaient commis leurs méfaits à l'extérieur des États-Unis.
En 1984, le Congrès américain promulgua une convention générale sur le contrôle des crimes afin de donner des pouvoirs au gouvernement à l'échelle internationale. Sous cette nouvelle loi, le FBI pouvait appliquer les lois sur les enlèvements et les crimes commis par des pirates de l'air contre des citoyens américains à l'étranger.
À partir de ce moment, tout groupe terroriste qui prenait un Américain en otage n'importe où dans le monde, notamment lors de détournements d'avions, était sujet à une enquête du FBI. Le détournement de l'avion de la Royal Jordanian était le premier crime contrevenant à la loi sur la prise d'otages qui avait été édictée en 1984. Ça signifiait que le FBI pouvait ouvrir une enquête même si l'appareil n'était pas venu en territoire américain et qu'il ne s'agissait pas d'une compagnie d'aviation américaine. Il y avait des Américains à bord qui avaient été pris en otage. Par conséquent, il y avait eu violation de la loi.
Tom Hansen fut chargé de l'affaire.
Dans le cadre de l'enquête sur le détournement du vol 402 de la Royal Jordanian, on a commencé par recueillir le plus d'informations possibles.
Le FBI n'était pas sans savoir que les deux groupes terroristes les plus actifs de Beyrouth étaient le Hezbollah et l'Amal Militia, une autre faction chiite formée pendant la guerre civile. Les agents soupçonnaient l'Amal Militia d'être responsable du détournement de l'avion. Il s'occupait de la sécurité à l'aéroport de Beyrouth et pouvait avoir donné aux pirates accès à l'avion. En outre, les déclarations anti-palestiniennes des pirates de l'air correspondaient aux opinions de ce groupe. Voici Oliver Burke Revel, l'ex-directeur adjoint de la section des enquêtes criminelles du FBI.
Il y avait des divergences d'idées entre le Hezbollah et l'Amal. L'Amal voulait que les Palestiniens soient évacués du sud du Liban et soient envoyés en Israël ou ailleurs, alors que le Hezbollah soutenait les mouvements palestiniens et plus particulièrement l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP.
Les deux groupes prenaient des mesures extrêmes pour faire passer leur message. Trois jours après le détournement du vol 402, quatre hommes du Hezbollah détournèrent le vol 847 de la TWA à Athènes et forcèrent le pilote à se rendre à Beyrouth.
C'était un vol américain. Il y avait 140 passagers à bord et plusieurs d'entre eux étaient de citoyenneté américaine.
Le Hezbollah a formulé une série d'exigences lors du détournement de cet avion. Le groupe réclamait la libération de certains prisonniers chiites, de même que de certains prisonniers palestiniens. Bien entendu, ces exigences ne relevaient aucunement du gouvernement américain. En outre, c'était contraire à la politique des États-Unis de faire des concessions à des organisations terroristes.
Les terroristes forcèrent le pilote de l'avion de la TWA à faire la navette entre Beyrouth et Alger. Chaque fois que l'avion se posait, il libérait des femmes et des enfants. À Beyrouth, les pirates de l'air montrèrent de quoi ils étaient capables pour qu'on les prenne au sérieux. Ils tuèrent Robert Steedham, un plongeur de la marine américaine.
Ils l'ont abattu de sang-froid et ont ensuite jeté son cadavre sur le tarmac à l'aéroport international de Beyrouth. Bien entendu, ça nous a mis en colère. Il était hors de question pour nous de tolérer ces actes. On poursuivrait ces types aussi longtemps qu'il le faudrait.
il y avait 39 otages, tous de nationalité américaine. Après avoir fait descendre les otages de l'avion, les terroristes les séparèrent en petits groupes qu'ils retinrent captifs à plusieurs endroits de Beyrouth. Le président Ronald Reagan fit une déclaration.
Terrorists, be on notice. We will fight back against you in Lebanon and elsewhere. We will fight back against your cowardly attacks on American citizens and property.
Les autorités envisagèrent plusieurs stratégies d'ordre diplomatique.
On s'est rencontrés à plusieurs reprises dans la salle de réunion de la Maison-Blanche. On essayait de trouver un moyen de faire libérer les otages. Ça a sans doute été le moment le plus stressant de ma carrière de 12 ans au sein du programme antiterrorisme. On se servait de toutes les sources de renseignements disponibles. Les ressources de la CIA, la technologie, les réseaux d'espionnage de pays alliés, par le biais des canaux diplomatiques. On a tout fait pour savoir qui détenait les otages, où ils se trouvaient et dans quelles conditions ils étaient. Tout ce qui nous permettrait de les repérer et éventuellement de les libérer.
Pendant que les autorités américaines recueillaient des renseignements, la vie de 39 Américains était menacée. Juin 1985. Des membres du groupe extrémiste Hezbollah avaient détourné le vol 847 de la TWA à Athènes et forcé le pilote à atterrir au Liban. Ceux-ci détenaient maintenant 39 otages en plusieurs groupes disséminés à travers Beyrouth. Le département d'État américain exerça une pression diplomatique pour que les otages soient remis en liberté. Voici Oliver Burke Revel, l'ex-directeur adjoint de la section des enquêtes criminelles du FBI.
On exerçait de la pression sur les Syriens et sur le gouvernement libanais alors au pouvoir. On faisait aussi appel à des intermédiaires comme l'Égypte et la Jordanie. On a consacré tous nos efforts à convaincre les autorités de ces pays à exercer de la pression sur le Hezbollah pour que les otages soient remis en liberté.
Finalement, le président Hafez al-Assad de la Syrie proposa de négocier avec les ravisseurs et il obtint la libération des 39 otages. Le président Ronald Reagan exprima alors publiquement le soulagement ressenti par toute la nation américaine.
The 39 Americans held hostage for 17 days by terrorists in Lebanon are free, safe and at this moment on their way to Frankfurt, Germany. They'll be home again soon. This is a moment of joy for them, for their loved ones and for our nation.
Une fois les otages en sécurité, les autorités américaines purent consacrer leurs efforts à trouver les terroristes. Des agents du FBI interrogèrent les otages du vol 847 de la TWA. Voici l'agent spécial Tom Hansen.
On a montré des photos de suspects à plusieurs des passagers. Ces suspects avaient déjà détourné des avions et pris des otages. On voulait déterminer si l'un de ces individus avait participé au détournement du vol de la TWA. Plusieurs de nos passagers ont reconnu sur une photo l'homme qui avait détourné l'avion de la Royal Jordanian.
Ainsi, le chef des pirates de l'air du vol 402 de la Royal Jordanian et membre connu de l'Amal Militia avait tenu sous surveillance les otages du vol de la TWA.
Ils nous ont parlé des conversations qu'ils avaient eues avec cet individu. Celui-ci avait reconnu avoir participé au détournement du vol de la Royal Jordanian. Il leur avait demandé s'ils en avaient entendu parler et il s'était vanté du rôle qu'il avait joué dans cette affaire.
Les enquêteurs avaient identifié un suspect qu'ils pourraient faire inculper. Mais obtenir des informations sur un terroriste basé à Beyrouth était pour le moins complexe. À cette époque, Beyrouth était divisée en deux par une ligne de démarcation appelée la ligne verte qui délimitait le territoire chrétien à l'est et le territoire musulman à l'ouest. Dwayne Dewey Claridge était alors chef de division au sein de la direction des opérations de la CIA.
La partie ouest de Beyrouth était un no man's land pour les Américains, de même que pour de nombreux Libanais. Il était donc très difficile d'y recueillir des informations, pas seulement pour la CIA, mais aussi pour les réseaux d'espionnage alliés du Liban.
Mais la CIA ne renonça pas. Des collaborateurs un peu partout à Beyrouth continuèrent d'interroger des indices. La persistance des agents porta fruit quand on obtint l'adresse personnelle de l'homme soupçonné d'avoir détourné l'avion de la Royal Jordanian.
Malheureusement, les autorités américaines n'avaient pas le droit de l'arrêter.
Il était alors impossible de demander aux autorités libanaises de nous remettre le suspect parce qu'il n'y avait pas vraiment de gouvernement à la tête du Liban.
D'autres actes de terrorisme furent commis partout dans le monde. En 1985 seulement, on compta 812 actes de terrorisme international. 926 personnes furent tuées, dont 23 Américains.
Il y a eu un tel nombre d'actes de terrorisme contre des citoyens américains à l'étranger que le président a fait mettre sur pied un groupe d'intervention pour ce problème. Le groupe était constitué de gens du cabinet qui avaient pour rôle d'examiner les lois et les actions prises par les États-Unis pour combattre le terrorisme. Ils devaient aussi définir le rôle des services de renseignement afin que tout soit le plus clair possible. Ensuite, ils devaient coordonner tous les efforts.
En janvier 1986, le groupe d'intervention créa le sous-groupe OSG. Ce sous-groupe était constitué de représentants officiels du FBI, de la CIA, de l'Agence de sécurité nationale, du Département de la Défense, du Département de la Justice et du Département d'État. Oliver Buck-Revel représentait le FBI.
L'OSG avait deux responsabilités. D'abord, s'assurer que les renseignements soient retransmis aussi efficacement que possible, et ensuite, coordonner les opérations contre nos cibles terroristes, qu'il s'agisse de groupes ou d'organisations ou même de pays qui finançaient des actes terroristes.
Dewey Claridge, lui, représentait la CIA au sein de l'OSG. Avant même la création du sous-groupe, Claridge avait fait des recommandations en vue d'améliorer les opérations antiterroristes au sein de la CIA.
Ce qu'on devait faire n'était pas habituel, parce que le terrorisme est un phénomène qui ne connaît pas de frontières. Je veux dire par là que les opérations peuvent avoir été planifiées par un groupe en Syrie, mais qu'elles pourront être exécutées par un autre groupe à Rome. Or, le gouvernement américain, comme tous les gouvernements, était organisé en fonction de ses limites géographiques, et cela valait aussi pour tous ses services de renseignement. Il était alors très difficile de mettre la main sur des terroristes. Pour ce faire, il fallait créer une organisation qui pourrait agir indépendamment des frontières nationales et même des structures de la CIA. La solution, du moins pour la CIA, consistait à créer le CTC, le Centre Antiterrorisme, pour qu'on puisse régler ce problème multinational autant du point de vue géographique que bureaucratique.
Le CTC regroupait des représentants de toutes les divisions de la CIA, ce qui permettait de mettre en commun tous les renseignements recueillis. Dewey Claridge fut nommé chef du centre.
Ça a été comme une révolution. Jamais auparavant, la CIA n'avait eu de système organisationnel qui allait au-delà de toutes les frontières géographiques ou autres.
Les États-Unis étaient maintenant en position pour contrer la menace terroriste. Et l'OSG était au cœur de ses efforts.
On était à la recherche d'une cible qui, par son arrestation, pourrait faire plusieurs choses pour nous. D'abord, on voulait démontrer aux terroristes du Moyen-Orient qu'on avait la volonté et les moyens de les poursuivre n'importe où et n'importe quand. En outre, on voulait leur montrer l'efficacité de la nouvelle loi et on souhaitait la mettre à l'épreuve devant les tribunaux. On voulait faire savoir à tous que les États-Unis ne laisseraient pas ces crimes impunis, qu'on allait s'en occuper.
Les membres de l'OSG examinèrent les renseignements obtenus sur plusieurs terroristes recherchés, incluant ceux qui avaient détourné le vol 402 de la Royal Jordanian et le vol 847 de la TWA. Malheureusement, il leur était toujours impossible de mettre la main au collet de ces suspects. Pour l'heure, tout ce que pouvaient faire la CIA et le FBI était de recueillir le maximum d'informations possibles sur les terroristes en vue d'obtenir des mises en accusation. L'agent spécial Tom Hansen.
Comme dans la plupart des enquêtes, il y a un élément de chance. Et la chance s'est présentée à nous en juin 1987.
L'OSG apprit que le bureau des narcotiques avait un informateur libanais qui travaillait depuis Chypre. Or, on croyait cet homme capable de repérer les terroristes recherchés en raison de ses réseaux de contacts. Un agent de la CIA qui l'interrogea apprit qu'il connaissait le chef des terroristes qui avait détourné le vol 402 de la Royal Jordanian. Les autorités américaines espéraient avoir enfin trouvé le moyen de capturer le pirate de l'air. Dans les années 80, devant la menace terroriste, le gouvernement des États-Unis avait décidé de rendre prioritaires les enquêtes sur le terrorisme international. En 1987, l'OSG apprit qu'un informateur du bureau des narcotiques connaissait le pirate de l'air ayant détourné le vol 402 de la Royal Jordanian. Voici l'agent spécial Tom Hansen du FBI.
Non seulement le connaissait-il, mais ils avaient des amis en commun et ils avaient fait affaire ensemble pendant environ 4 ans. De fait, notre informateur croyait pouvoir convaincre le suspect de quitter le Liban pour lui rendre visite dans un autre pays. Ça nous donnait quelque chose qu'on n'avait jamais eu par le passé, la possibilité d'avoir accès à ce terroriste.
L'informateur se montra coopératif, mais il avait toutefois quelques inquiétudes. L'ex-directeur adjoint Oliver Buck-Revel du FBI.
Il voulait une grosse récompense. Et il voulait aussi qu'on organise son transfert aux États-Unis avec sa famille et qu'on le mette sous notre programme de protection des témoins. On trouvait ces demandes raisonnables. Sa famille et lui seraient vraisemblablement en danger s'il restait au Liban. Les autorités ont accepté d'accéder à ces demandes.
À Chypre, l'informateur déclara alors à un espion de la CIA que le pirate de l'air avait quitté les rangs de l'Amal Militia.
Le pirate faisait maintenant partie du monde de la drogue. Il en faisait le trafic en Europe et dans d'autres parties du bassin méditerranéen. Il était très actif dans le transport et la vente de narcotiques.
Notre informateur nous a révélé que le pirate de l'air était intéressé à vendre des narcotiques et que dans le passé, il avait déjà participé à certaines opérations de vente de stupéfiants. Il croyait pouvoir convaincre le suspect de quitter le Liban pour venir le voir à Chypre, où il nous serait plus facile de l'arrêter.
Le terroriste qui avait détourné l'avion de la Royal Jordanian était maintenant dans la ligne de mire de l'OSG. Avec la permission de l'informateur, la CIA cacha plusieurs micros chez lui afin d'enregistrer ses conversations avec le terroriste.
On a demandé à notre informateur de mentionner au terroriste qu'il connaissait un narcotrafiquant international qui cherchait à planifier une nouvelle opération. Notre indique lui suggérerait alors de faire entrer de la drogue au Liban depuis l'Iran et de fournir des stupéfiants à ce narcotrafiquant sur une base régulière. Il devait lui montrer combien ces opérations pouvaient être lucratives.
Selon le plan établi par l'OSG, l'informateur devait organiser une rencontre entre le pirate de l'air et un pseudo-narcotrafiquant du nom de Joseph à l'extérieur du Liban. La rencontre aurait lieu sur un yacht, en eau internationale.
On ne voulait pas que nos opérations violent les lois d'un autre pays.
L'OSG demanda que l'arrestation soit effectuée par l'armée américaine ou le FBI. Voici l'agent spécial David Woody Johnson, l'ex-commandant du HURT, l'escouade de libération des otages du FBI.
Normalement, quand une opération relative à des terroristes se déroule à l'extérieur des États-Unis ou de ses territoires, c'est l'armée qui s'en occupe. Mais tous les crimes de cette nature aux États-Unis relèvent du HURT. On nous a alors demandé d'aller arrêter ce type outre-mer. Les autorités se demandaient si elles devaient faire appel à une équipe de l'armée ou à l'équipe du HURT. La question a été débattue au bureau du procureur général. Les autorités sont finalement arrivées à la conclusion qu'il s'agissait d'une arrestation en bonne et due forme et que l'escouade de libération des otages allait s'en occuper même si c'était à l'étranger.
Le choix s'était arrêté sur le HURT parce que le FBI avait des droits que n'avait pas l'armée. Les membres du HURT sont des agents des forces de l'ordre qui ont reçu un entraînement spécial pour libérer des otages. En outre, ils peuvent témoigner devant les tribunaux américains.
On voulait l'arrêter vivant et le ramener au pays pour le faire comparaître en cour. L'idée derrière tout ça, c'était d'envoyer par cette arrestation un message politique clair. Cette opération était très longue à planifier. On ne voulait violer les lois d'aucun autre pays. On ne voulait pas échouer en cours de route, car ça enverrait un message très négatif.
Le plan était maintenant prêt à être mis en branle. Il ne restait qu'une formalité à régler, obtenir l'approbation du président américain.
J'avais mon passeport, j'étais en route vers l'aéroport international de Washington pour y prendre un avion de ligne commerciale en direction d'Athènes, quand j'ai reçu un appel dans la voiture. C'était Ed Meese, le procureur général. Il m'a dit, « Buck, je viens de tout expliquer au président Ronald Reagan. Vous avez son approbation. Bonne chance. Je vous parlerai quand vous serez arrivé à destination. »
Mais avant de mettre l'opération en branle, il restait une dernière chose à faire au FBI.
On a contacté de nouveau les témoins qu'on avait préalablement interrogés pour s'assurer qu'ils accepteraient de venir aux États-Unis. On voulait qu'ils témoignent contre le suspect.
Plusieurs passagers et membres de l'équipage du vol 402 acceptèrent de se présenter à la barre si c'était nécessaire. En septembre 1987, commença l'opération Goldenrod. Le FBI, la CIA et la marine américaine déployèrent des effectifs en vue de l'arrestation du pirate de l'air responsable du détournement de l'avion de la Royal Jordan. Le FBI assurait la coordination de sa portion de l'opération depuis un centre de commandement à bord du USS Bute, un navire naviguant en eau internationale à 25 km au large des côtes de Chypre. L'agent spécial Woody Johnson assurait le commandement du HURT, l'équipe de libération des otages.
Ils ont menti à l'équipage en disant qu'une équipe technique devait venir pour régler quelques problèmes sur le navire. On est alors arrivé avec nos étuis à fusil, entre autres choses. Nos agents étaient assez costauds et ils n'avaient aucunement l'air de techniciens. De plus, les boîtes dans lesquelles on transportait notre matériel ne ressemblaient pas à des coffres à outils. Je me rappelle l'air de ces jeunes marins qui nous ont dit en nous croisant « Vous êtes les techniciens, c'est ça ?»
En Grèce, l'agent spécial Don Glasser, qui faisait partie du HURT, loua le yacht où devait avoir lieu l'arrestation.
On a choisi ce modèle parce qu'il n'attirerait pas trop l'attention. On y a apporté quelques changements. On a installé un système de navigation par satellite et un Laurent, un système de navigation aérienne à grande distance.
Dans la ville portuaire de Limassol, sur l'île de Chypre, Dewey Claridge et l'équipe de la CIA établirent un poste de commandement dans une chambre d'hôtel.
Il y avait un expert en communication parmi nous. On avait plusieurs coffres d'équipement. On a prétendu qu'il s'agissait de matériel photographique. On communiquait par satellite avec Washington et avec UCOM à Stuttgart. C'est une base militaire américaine en Allemagne. Et bien entendu, on pouvait communiquer avec le vaisseau Bute et avec le yacht. Le quartier général retransmettait nos communications au quartier général du FBI, à la Maison-Blanche et aux autres services. Ils voulaient tous savoir comment progressait l'affaire.
L'ex-directeur adjoint Buck Revel supervisait les opérations depuis le centre de commandement sur le USS Bute.
On disposait d'une équipe d'intervention d'urgence. Il y avait un hélicoptère sur le pont prêt à partir et équipé d'armes automatiques et du matériel requis pour nous défendre contre des pirates ou des groupes terroristes qui auraient voulu contrecarrer nos plans. On consacrait tous nos efforts à s'assurer que le suspect serait conduit à ce bateau où l'on procéderait à son arrestation. Mais on gardait aussi en tête le fait qu'on devait éviter à tout prix que cette arrestation ne devienne un incident d'envergure internationale. Dans ce genre de cas, on ne sait jamais exactement à quoi s'attendre. Au Liban, tout se déroulait comme prévu. On avait posté une équipe de la CIA à Chypre. Il y avait aussi une équipe du FBI en poste à bord du yacht qui s'occuperait de l'arrestation. Le poste de commandement était à bord du USS Bute, où se trouvait également l'équipe d'intervention d'urgence. Le navire devait rester le plus près possible du yacht
tout en se trouvant en eau internationale. Comme on n'avait aucun contrôle sur le moment où le suspect arriverait, il fallait qu'on soit flexible.
Le FBI et la CIA étaient prêts. Les agents de la CIA indiquèrent à l'informateur d'appeler le pirate de l'air à Beyrouth pour lui dire que tout était en place. Le terroriste pouvait venir à Chypre pour y rencontrer un pseudo-narcotrafiquant appelé Joseph.
Le pirate de l'air a accepté d'aller à Chypre pour y rencontrer Joseph, qui, comme vous le savez, était un soi-disant important trafiquant de drogue. Les détournements d'avions ne sont guère des opérations rentables. Il chercha ainsi un moyen de faire de l'argent.
Le terroriste arriva à la maison de l'informateur où il devait rester jusqu'au début de l'opération.
On s'est assuré que notre informateur dépense beaucoup d'argent lorsqu'il accueillerait le pirate de l'air à Chypre. On voulait aussi qu'il lui montre une valise pleine d'argent pour l'impressionner. Il a réussi à enregistrer le terroriste alors qu'il avouait être le chef de la bande ayant détourné le vol de la Jordanian Aircraft. C'était quelque chose que le département de la justice espérait obtenir. La bonne nouvelle, c'était que notre suspect était arrivé à Chypre comme prévu. La mauvaise, c'était que la police de Chypre était à sa recherche. Apparemment, il s'était retrouvé sur une liste de types à surveiller.
Les agents ne pouvaient pas courir le risque que la police locale arrête le terroriste au beau milieu des opérations. La CIA décida de faire loger l'informateur et le suspect à l'hôtel même où les agents avaient établi leur poste de commandement.
J'avais l'intuition que ça fonctionnerait parce que c'était le week-end. Il était peu probable que les policiers se mobiliseraient pour le trouver, et plus particulièrement à cet hôtel huppé et tout neuf.
Le dimanche matin, l'informateur annonça au suspect qu'il était maintenant temps de rencontrer Joseph. Il lui expliqua que puisqu'il était impossible pour le narcotrafiquant de venir à Chypre, il devait le rencontrer à bord de son yacht. Le frère de l'informateur les conduirait au bateau.
Il fallait que l'un de nos agents de citoyenneté américaine puisse voir le pirate de l'air au moment où il montait à bord du bateau, afin qu'il puisse formellement affirmer que c'était bien le suspect qu'on recherchait. Un de nos agents se trouvait donc sur le quai.
L'agent spécial Tom Hansen.
Un bateau est parti à l'heure prévue avec à son bord notre informateur et le suspect. Ils ont pris la direction du yacht.
On avait également disposé des embarcations ici et là pour servir de repère de navigation à notre informateur.
Pour l'heure, les agents du FBI ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre. Les agents secrets du FBI attendaient en eau internationale, à 20 km des côtes de Chypre, le pirate de l'air ayant détourné l'avion de la Royal Jordan. Voici l'agent spécial Woody Johnson, commandant du HURT.
Les membres du HURT se sont mis en position sur le pont. Ils jouaient le rôle de garde du corps du narcotrafiquant.
Sur le pont se trouvaient également deux agents du FBI dont la présence visait à dissiper la méfiance du terroriste.
Le reste de l'équipe était caché à l'intérieur. Et un tireur d'élite se trouvait dans la cabine de pilotage au cas où quelque chose d'inattendu arriverait ou que ces types décideraient d'ouvrir le feu. Ainsi, on pourrait riposter.
Les l'agent spécial Don Glasser.
Tout semblait normal sur le bateau. Les agents les ont salués de la main et leur ont fait signe de monter.
Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était peut-être une embuscade montée de toutes pièces par ces types.
L'agent secret leur a alors dit en arabe que le patron prenait une douche à l'intérieur et qu'il ne tarderait pas à sortir. On a dit que le patron avait ordonné qu'on les fouille pour s'assurer qu'ils n'étaient pas armés, mais que ça ne prendrait que quelques secondes. On s'est excusé de devoir les fouiller en ajoutant que ce n'était qu'une question de sécurité. Il ne s'est pas opposé à la fouille. Un agent l'a alors tâté rapidement, mais n'a rien trouvé. Un autre agent l'a ensuite escorté dans la cabine en me faisant un signe de la tête. Ça signifiait qu'il était temps de procéder à l'arrestation. L'équipe du Hurt est alors entrée dans la cabine. Il a été pris par surprise. Je ne crois pas qu'il savait qu'on était des agents. Il était terrifié et n'a opposé aucune résistance. On lui a mis des entraves, après quoi on a contacté le navire.
Les agents annoncèrent que l'arrestation avait eu lieu.
Rendu à cette étape, on savait qu'on avait complété notre mission en livrant ce type aux agents du FBI. On a rapidement rangé notre matériel au poste de commandement et on a quitté l'hôtel.
Aussitôt après l'arrestation, des hommes du Butte sont venus nous chercher en bateau. Le Butte est un navire de 275 mètres. C'est immense. On l'a vu se profiler à l'horizon et on l'a ensuite rejoint. Le capitaine faisait jouer de la musique patriotique à tue-tête. Il a fait hisser un immense drapeau américain. Il a alors expliqué à l'équipage ce qui venait d'arriver. Il disait « Nous ripostons enfin, et vous avez eu la chance de faire partie de cette opération. » Une des choses qui m'a profondément ému, c'est quand on est arrivé sur le pont. Il y avait 200 ou 300 membres de l'équipage qui nous acclamaient et qui applaudissaient. Ça a été une expérience très intense.
Le Butte a alors pris la direction de l'ouest pour aller rejoindre le porte-avions USS Saratoga.
Les agents interrogèrent le pirate de l'air à bord du Butte.
L'interrogatoire du terroriste a été très utile pour les services secrets américains. Ça nous a permis d'avoir une idée globale de la situation du sud du Liban, des relations entre l'Amal, le Hezbollah et le gouvernement libanais. Ça nous a aussi permis de nous faire une idée de l'implication de la Syrie et de l'Iran.
On a transporté le suspect jusqu'au Saratoga à bord d'un hélicoptère militaire.
De là, les agents le transférèrent à un S3 Viking, à bord duquel il ferait la longue traversée vers les États-Unis.
En direction de Washington, l'appareil a dû être ravitaillé en vol à deux reprises. Il s'agissait alors du plus long vol en continu de l'armée américaine depuis la plateforme de service d'un navire américain jusqu'à destination.
Après un vol de 13 heures, le S3 atterrit à la base aérienne Andrews au Maryland. Le pirate de l'air fut aussitôt conduit à Washington pour sa mise en accusation. En 1989, le terroriste comparut devant les tribunaux. Il fut reconnu coupable et condamné à une peine de 30 ans d'emprisonnement pour avoir pris part à un complot, détourné un avion et pris des otages.
C'était la première fois qu'un individu était arrêté à l'étranger et emmené aux États-Unis pour y subir un procès devant les tribunaux fédéraux pour un crime qui avait eu lieu en territoire étranger. On espérait, par cet exploit, envoyer un message très clair aux terroristes. Les règles du jeu avaient changé. On ne serait plus passif. On irait à l'autre bout du monde pour les arrêter, si c'était nécessaire.
L'opération Goldenrod a été la première opération couronnée de succès dans la guerre au terrorisme menée par le gouvernement américain. Une catastrophe menace une petite ville du Nevada où il y a 250 000 touristes pendant un long week-end. On a trouvé une bombe de 500 kilos qui pourrait exploser à tout moment. Il est impossible de la désamorcer ou de la déplacer sans provoquer d'explosion. Pour le FBI, il s'agit du pire scénario possible. Stateline est une petite ville touristique située à la frontière de la Californie et du Nevada. Cette localité ne compte que 1300 habitants. Sa plus grosse industrie est celle du jeu. Avec tout l'argent qui y circule, c'est une cible idéale pour les criminels qui cherchent à s'emparer d'un gros butin. Le 26 août 1980, à 5h30, à l'aire de réception du Harvey's Casino. Deux hommes avisèrent le gardien de sécurité qu'ils avaient une nouvelle photocopieuse à livrer. Le gardien leur indiqua où se trouvaient les bureaux de la direction au deuxième étage. Ils ne pouvaient imaginer ce qu'ils venaient de laisser entrer dans l'immeuble. Il ne s'agissait pas d'une photocopieuse. Peu après 6 heures du matin, un autre gardien de sécurité vit l'étrange boîte métallique au milieu d'une pièce. Par terre, il trouva une lettre. Selon cette lettre, la boîte contenait une imposante bombe. Le gardien de sécurité contacta aussitôt le bureau du shérif de Douglas County. Voici le capitaine Ron Pierini.
Il était environ 6h30 du matin quand j'ai reçu un appel de l'un de mes sergents qui m'a informé qu'on avait trouvé une bombe au Harvey's Casino.
Pierini contacta alors l'escouade antibombe de Tao Douglas. L'engin explosif était immense et il était fait de métal. Selon la lettre, la boîte contenait 500 kilos de TNT. Une telle quantité d'explosifs pouvait tout détruire dans un rayon de 150 mètres du casino. La lettre mentionnait également qu'il y avait trois minuteries distinctes dans la bombe, chacune réglée à une heure différente. La bombe ne pouvait pas être déplacée ni désamorcée. Si les autorités ne remettaient pas 3 millions de dollars à l'auteur de cette bombe, ils feraient exploser le casino. Ils disaient également que si le FBI essayait de contrecarrer l'opération, ils frapperaient de nouveau le même casino.
Cet engin était énorme et il était bien réel. Et s'il avait alors explosé, aucun de nous ne serait en vie aujourd'hui.
À en juger par la complexité de l'engin et la quantité de TNT qu'il contenait, il était clair que son auteur n'entendait pas à rire. La bombe pouvait détruire tout le pâté de maison et l'on ne savait même pas quand elle devait exploser. Celui qui avait fait cette bombe contrôlait parfaitement la situation.
Selon l'escouade anti-bombe, rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une fausse bombe, que ce n'était qu'une coquille vide. On croyait que c'était une vraie bombe. Il y avait donc plusieurs points à examiner. Comment allions-nous protéger les lieux et assurer la sécurité des gens?
Le casino était rempli de joueurs. Et l'hôtel qui abritait le casino, plein de clients. Avec une bombe d'une telle taille, les policiers devaient mettre en sécurité des centaines de gens. Au cours des heures suivantes, les 600 clients de l'hôtel furent conduits à une école non loin de là.
Pour être honnête, on était terrifiés. C'était vraiment perturbant. Si cette bombe avait explosé dans le casino, il y aurait eu pas moins de 600 victimes.
Le capitaine Pierini évalua la situation et se rendit compte qu'il avait besoin de renforts.
Notre service de police est relativement petit. Nous n'avons pas l'expertise pour gérer les cas d'extorsion, ni les ressources et l'argent requis pour mener une enquête sur une affaire comme celle-ci. Comme il s'agissait d'un cas d'extorsion, on a immédiatement contacté le FBI.
Voici l'agent spécial Bill Jonke.
Il y a parfois des tentatives d'extorsion dans les casinos de State Line. C'est déjà arrivé. Des criminels ont posé des bombes dans quelques casinos de la ville. Mais jamais, dans mes rêves les plus fous, j'aurais pu imaginer une bombe aussi imposante et sophistiquée.
Il y avait 28 interrupteurs à levier sur la boîte du dessus et chacun d'eux était numéroté.
Tous les leviers étaient positionnés vers le bas, sauf un seul, le numéro 23, qui, lui, était vers le haut. Quand on a examiné ces interrupteurs, on ne savait pas à quoi ils servaient.
N'importe lequel de ces interrupteurs pouvait faire exploser la bombe ou au contraire la désamorcer.
On m'a remis la lettre d'extorsion dans laquelle on identifiait plusieurs composantes de la bombe. En lisant cette lettre, j'ai compris qu'on avait tout un problème sur les bras. Selon cette lettre, la bombe contenait 500 kilos de TNT. Et en juger par la taille de la grosse boîte, la bombe pouvait effectivement contenir une aussi grande quantité de TNT.
Plusieurs casinos se trouvaient dans le rayon d'explosion de 500 kilos de TNT. C'est toute la petite ville qui pouvait être rayée de la carte.
On a bloqué l'accès au quartier des casinos depuis l'autoroute 50 et on s'est assuré qu'aucune voiture ne puisse passer. On a ensuite ordonné aux autres casinos d'évacuer le secteur immédiat du Harvey's, ce qu'ils ont fait. Ils ont même posé des planches dans certaines fenêtres pour empêcher les gens d'être blessés par des éclats de verre.
Pendant que les policiers fermaient l'accès aux rues du quartier, l'escouade anti-bombe analysait l'engin explosif. Les experts n'étaient pas tenus de porter leur combinaison parce que rien n'aurait pu les protéger si une bombe de cette taille devait exploser. D'abord, on devait découvrir ce que la boîte métallique contenait.
Quel type de bombe était-ce? Quelle serait l'ampleur de l'explosion? Pourrait-elle détruire les commerces situés de l'autre côté de la rue? Pouvait-il s'agir d'une bombe nucléaire?
L'agent spécial Herb Hawkins est le numéro 2 du bureau du FBI de Las Vegas.
On a radiographié l'engin en procédant par section, car on n'avait pas d'appareil assez gros pour radiographier l'ensemble d'un coup. On a fait une série de radios du tiers de la bombe, puis d'un autre tiers et enfin d'un dernier tiers.
En tout, l'escouade anti-bombe prit plus de 200 radios. Les membres photographièrent également l'engin et y prélevèrent des empreintes digitales. Même s'il était risqué de prélever un échantillon de peinture, le FBI croyait que cela permettrait peut-être d'obtenir des indices importants sur l'auteur de cette bombe.
Ça peut nous aider à identifier le type qui a ce genre de peinture dans son garage.
Les enquêteurs trouvèrent également une petite goutte de sang sur un des coins de l'engin. Elle fut recueillie à titre d'indice.
On pourrait peut-être trouver un homme dont le sang correspondrait à celui recueilli sur la bombe. C'était une bonne piste d'enquête pour nous.
Les empreintes digitales et les échantillons de peinture et de sang furent envoyés au labo du FBI à Washington. Les experts devaient analyser ces indices en espérant qu'ils les mèneraient vers le coupable. Mais pour les agents sur les lieux du crime, la priorité était de désamorcer la bombe. Au poste de commandement, les enquêteurs étudièrent les radios de l'engin explosif.
Le matériau qui se trouvait dans la boîte du bas était très dense. On était incapable de voir à travers sur les radios. Cela indiquait qu'il s'agissait vraisemblablement d'explosifs ou d'un autre matériau très dense. On pouvait voir des fils électriques plongés dans ce matériau. On en a déduit qu'il s'agissait des fils des détonateurs dont les extrémités avaient été placées dans les explosifs.
Des scientifiques du NEST, l'équipe de recherche nucléaire, analysèrent la portion du bas de la bombe pour en calculer le rayon potentiel d'explosion.
Ils ont estimé que l'explosion ferait des dommages significatifs sur une distance de 500 à 800 mètres. À moins de 500 mètres, ce serait évidemment encore plus grave. Et à moins de 200 mètres, la destruction serait complète.
Pendant que les experts en explosifs analysaient l'engin, des agents se mirent à la recherche de l'auteur du crime.
On devait interroger tous les clients du casino au cas où l'un d'eux aurait vu quelque chose, comme le véhicule ayant servi au transport de la bombe, par exemple.
Les autorités mirent sur pied des lignes téléphoniques spéciales. Le capitaine Ron Pierini et ses collègues du bureau du shérif de Douglas County travaillaient étroitement avec le FBI.
On voulait savoir s'il y avait des témoins, si quelqu'un avait vu ces types apporter la bombe au casino. Quel véhicule conduisait-ils? Pouvait-on nous les décrire?
Le FBI interrogea le gardien de sécurité. Celui-ci leur parla des deux hommes venus livrer une photocopieuse vers 5h30 du matin. Ils étaient arrivés à bord d'une camionnette blanche.
On savait qu'ils avaient une camionnette blanche. On savait aussi à quelle heure la bombe avait été livrée par deux hommes au casino qui poussaient et qui tiraient dessus.
Les enquêteurs essayèrent de repérer toutes les camionnettes blanches du secteur de Lake Tao.
Les patrouilleurs arrêtaient les camionnettes blanches et notaient le nom de leurs conducteurs.
Pendant que les policiers étaient à la recherche de suspects potentiels, les techniciens analysaient toujours l'engin explosif. Mais les nouvelles n'étaient guère réjouissantes. La bombe était d'une puissance incroyable.
Au cours de cette première journée, après le diagnostic, l'analyse des radios et de la lettre d'extorsion, on a réalisé qu'on ne pourrait pas déplacer cette bombe. De fait, il s'agissait d'une vraie bombe prête à exploser. On ne connaissait pas la nature de la matière explosive. On croyait également qu'il y avait d'autres explosifs dans la boîte du dessus, ce qui rendait toute l'opération extrêmement risquée. À la fin de l'après-midi, on a dû conclure qu'il nous serait impossible d'ouvrir cette bombe avec l'équipement à notre disposition, ou même avec tout l'équipement qui existe au pays.
Il semblait bien que l'auteur de cette bombe avait remporté la manche. Le FBI devrait prendre une nouvelle approche et coopérer avec lui. Ce soir-là, les agents rencontrèrent Harvey Gross, le propriétaire du Harvey's Casino.
On pensait qu'on avait de bonnes chances d'arrêter et d'identifier ces types au moment où on leur remettrait l'argent. On a donc décidé de suivre leurs instructions.
L'auteur de la bombe avait demandé qu'on lui laisse 3 millions de dollars à un endroit isolé par hélicoptère, en échange de quoi il donnerait aux autorités des instructions pour déplacer et désamorcer la bombe sans danger.
On a parlé au propriétaire des problèmes qu'on avait eus avec la bombe. On devait agir rapidement et profiter du moment où on lui remettrait l'argent.
Les agents croyaient que les 3 millions de dollars étaient le meilleur moyen de retrouver le coupable le plus vite possible. Le propriétaire du casino était sceptique.
Il nous a demandé ce qu'on comptait faire avec ce type. On lui a dit « on veut le capturer ». Ce à quoi il nous a répondu « si vous faites ça, je ne lui donnerai pas 3 millions de dollars ». Il nous a alors donné 5 000 dollars en billets que nous avons soigneusement marqués. Les autres billets n'étaient en fait que des morceaux de papier.
Un pilote du FBI conduirait l'hélicoptère. Comme l'auteur de la bombe avait interdit toute communication radio, le pilote porterait un micro. Il devait atterrir dans un endroit précis à l'aéroport de Salt Lake Tahoe, au plus tard à 23 heures. À minuit 5, on lui donnerait d'autres instructions.
On avait exigé qu'aucune force de l'ordre ne soit mêlée à ces opérations. Mais ce n'était pas très réaliste. Bien entendu, de nombreux policiers et agents se trouvaient un peu partout dans l'aéroport. Ils espéraient identifier quelqu'un sur les lieux qui pouvait avoir des liens avec cette tentative d'extorsion.
Le pilote atterrit à l'aéroport de Salt Lake Tahoe à 23 heures précises. Dans un immeuble à proximité, une équipe d'agents du FBI et de policiers se tenait prêts à écouter la suite grâce au micro du pilote.
On attendait que l'auteur de la bombe entre en contact avec lui. À minuit 5, exactement comme il l'avait dit, le téléphone a sonné dans la cabine téléphonique.
L'homme au bout du fil demanda au pilote de regarder sous la tablette qui se trouvait dans la cabine. Il y trouverait d'autres instructions.
Il a lu le mot à voix haute alors qu'il se trouvait devant la cabine téléphonique. Ça nous a permis de l'entendre et d'ainsi connaître le contenu de la lettre. On a aussitôt dépêché des unités au sol vers l'endroit où il devait se diriger.
Le pilote devait voler vers l'ouest, le long de l'autoroute 50, à une altitude de 150 mètres. À un certain moment, il devait apercevoir une lumière stroboscopique qui lui indiquerait où atterrir.
Il fallait voler à très très basse altitude dans une région très montagneuse. C'était extrêmement dangereux pour notre pilote d'hélicoptère de voler ainsi en pleine nuit. On ferait l'impossible pour le couvrir et le protéger à partir du sol, et bien entendu pour arrêter l'auteur de ce crime si c'était possible. On a immédiatement dépêché des voitures sur l'autoroute 50 en direction ouest. Autant pour repérer le suspect que pour protéger notre pilote.
Une unité SWAT volait à 300 mètres au-dessus de l'hélicoptère du FBI. Elle assurait ainsi la sécurité du pilote.
L'élément qui nous rend le plus craintif, c'est l'inconnu. On ignorait à qui l'on avait affaire. On ne savait pas s'il y avait 10 de ces types, un seul ou deux douzaines qui iraient à la rencontre de l'hélicoptère.
Le pilote du FBI continua de longer la route 50 à une altitude précise de 150 mètres à la recherche de la lumière stroboscopique. Sous lui, il n'y avait que l'obscurité. Il semblait que l'auteur de la bombe jouait à un jeu mortel et que le FBI était complètement à sa merci. Stateline au Nevada en 1980. Le pilote d'un hélicoptère du FBI scrutait un segment de 25 km de l'autoroute 50 à la recherche d'un signal. L'homme qui avait posé une imposante bombe dans un casino de la région avait exigé la somme de 3 millions de dollars. Les agents savaient que leur meilleure chance d'arrêter l'auteur de la bombe serait de lui faire croire qu'ils obéissaient à ses directives. Le pilote survola les montagnes dans l'obscurité à une altitude de seulement 150 mètres. Il ne vit aucune lumière stroboscopique. L'agent du FBI, Herb Hawkins, dirigeait les opérations de recherche au sol.
Il revenait vers nous et repartait ensuite pour revenir encore. On lui disait de continuer de faire la navette. Il m'appelait sans arrêt pour me dire « Herb, je n'ai rien trouvé, il n'y a rien ». Vers 4 heures du matin, on lui a finalement ordonné de rentrer.
L'auteur de la bombe semblait avoir remporté cette autre manche. Toutes les tentatives du FBI d'établir un contact avec lui avaient échoué. Mais s'il ne voulait pas la rançon, que voulait-il donc ? Le lendemain matin, le FBI demanda à Robert List, le gouverneur du Nevada, de tenir une conférence de presse. Celui-ci devait convaincre l'auteur de la bombe de reprendre contact avec le casino.
Le mercredi, ça a été le silence complet. Je crois que ces types ne nous ont pas contactés parce qu'ils étaient très prudents.
Pour l'escouade anti-bombe, cela posait un problème qui pouvait se révéler fatal. Comment pourrait-on déplacer la bombe sans savoir ce qui se trouvait à l'intérieur ?
C'était très lourd et tout en métal. Il y avait là 500 kilos de matière explosive. On ne pouvait pas simplement soulever la bombe et la sortir des lieux. On a constaté que pour la déplacer, en admettant que cela n'aurait posé aucun danger, on aurait eu besoin d'au moins 3 ou 4 personnes. C'était beaucoup trop de gens près d'un engin prêt à exploser.
Même s'ils avaient pu déplacer l'engin explosif dans l'aire de stationnement, qu'auraient-ils fait ensuite ?
On était littéralement aux prises avec une grenade géante. Si cette bombe explosait, elle projetterait des éclats partout. On ne pouvait pas se permettre de la sortir de l'immeuble.
Les agents et les experts de l'escouade anti-bombe ignoraient si la bombe était branchée sur une minuterie, si son auteur pouvait la faire exploser à distance, et ils ignoraient aussi le degré de volatilité du matériau explosif. Ils avaient des décisions difficiles à prendre.
Un des experts nous a dit, et nous étions tous d'accord sur ce point, que si nous pouvions faire tomber la boîte du dessus à l'aide d'explosifs, et ce, à très grande vitesse, on couperait alors le courant électrique qui alimentait la pile et l'on empêcherait que la charge principale n'explose.
Le plan consistait à utiliser 3 kilos d'explosifs plastiques pour détruire la boîte du dessus, qui était vraisemblablement la boîte de contrôle de la bombe.
S'ils pouvaient couper le courant qui se rendait dans la dynamite, on pouvait espérer que la bombe n'exploserait pas.
Tout dépendait du fait que la boîte du dessus ne soit pas elle aussi remplie d'explosifs.
Si la boîte du dessus contenait de la dynamite, alors notre plan échouerait parce que cela provoquerait l'explosion de la bombe du dessous. En d'autres mots, nos tentatives d'éliminer la boîte du dessus provoqueraient l'explosion de la bombe.
C'était une procédure risquée. Tout l'immeuble abritant le casino et l'hôtel serait détruit. On devait avant tout demander la permission du propriétaire des lieux, Harvey Gross.
Il nous a dit que tant que personne ne serait blessé, on devait faire ce qu'il y avait à faire. Après plusieurs heures à chercher une solution, on avait trouvé que cette option. Il a accepté. Il avait les larmes aux yeux. Il nous a demandé de protéger toutes les personnes qui travaillaient sur cette affaire et de s'assurer qu'il n'y ait pas de blessés. Si la bombe devait exploser, a-t-il dit, on pourrait reconstruire le casino.
L'escouade anti-bombe prépara une charge linéaire qu'elle plaça à un endroit stratégique pour détruire la boîte du dessus.
Des fils partaient des charges explosives et sortaient par la fenêtre pour se terminer à un point de mise de feu dans l'aire de stationnement.
Il était impossible de déterminer à l'avance si la charge linéaire désamorcerait la bombe ou si, au contraire, elle la ferait exploser.
On espérait que cela séparait la boîte du dessus du reste et que cette boîte ne contenait pas d'explosifs, ce qui aurait provoqué une détonation. Mais on était prêt à tout et je dois dire qu'on s'attendait effectivement à ce que les 500 kilos de TNT explosent, comme l'indiquait la lettre. On était prêt à cette éventualité quand on a fait exploser la charge linéaire.
Vers 15h55, le shérif Jerry Maple fit diffuser un avertissement pour aviser la population qu'on allait tenter de désamorcer la bombe.
Okay, we have the all clear. Everybody stand by. Five, four, three, two, one.
Le plan avait échoué. Une partie de l'immeuble était maintenant en ruine. L'agent spécial du FBI, Herb Hawkins.
La dévastation était importante. Les 2 étages du sous-sol et les 2 premiers étages avaient été détruits. Il y avait des dégâts partout. Des barres d'armature, des blocs de ciment, des murs, des bureaux... Des meubles en 1000 miettes. Il y avait des fragments dans l'hôtel, d'autres dans le trou créé par l'explosion, d'autres encore au 2e et au 3e étage, et enfin dans l'aire de stationnement. Je crois qu'on a tous eu la même pensée. On était reconnaissant de n'avoir aucune égratignure. Il n'y avait pas eu de blessés. On était soulagés de penser que la bombe ne représentait plus de danger. Les 2 derniers jours avaient été très stressants. On était donc soulagés qu'elle ait explosé. Si vous détruisez un immeuble, vous pouvez le reconstruire. Mais quand il y a des pertes de vies humaines, on ne peut jamais revenir en arrière.
Quelques experts en explosifs et moi-même sommes retournés dans l'immeuble immédiatement après l'explosion, malgré le danger que ça représentait.
Il y avait des gravats partout et des agents du FBI craignaient que le reste de l'immeuble ne s'écroule. Une fois les lieux jugés sécuritaires, tous les agents retournèrent dans le casino pour y chercher des indices.
On a commencé un examen très minutieux de la scène du crime, comme on le fait lorsqu'il s'agit d'une explosion, car dans un cas comme celui-là, la cueillette d'indices peut vraiment nous aider à résoudre cette affaire.
Mais à travers toutes ces ruines, trouver des indices ne serait pas facile.
Quand une bombe explose, ses composantes ne s'évaporent pas. Elles sont très fragmentées, mais toujours là, au travers des décombres. Elles sont peut-être dans le cratère plus bas, mais elles sont bien là. Notre travail consiste à les trouver et les identifier.
Les autorités estimaient qu'il faudrait près de 6 semaines pour faire l'examen de la scène du crime. Le FBI ne pouvait se permettre de donner autant de temps à l'auteur de la bombe. À peine quelques jours après l'explosion, les casinos de State Line offrirent une récompense de $250,000 en échange d'informations permettant l'arrestation et la comparution de l'auteur de la bombe.
On s'est adressé à tous les médias en espérant que quelqu'un nous appellerait. On a mis sur pied une ligne téléphonique sans frais, accessible dans tout le pays. Ainsi, n'importe qui aux États-Unis pouvait nous appeler et nous fournir ses informations en échange d'une récompense.
La généreuse récompense permit de recevoir quelques milliers d'appels, mais on n'obtint malheureusement pas de pistes solides.
Quelques jours ont passé. Je dirais qu'il s'est écoulé 9 ou 10 jours. On avait des pistes, mais aucune d'elles n'était prometteuse. Les types qui avaient fabriqué et posé cette bombe étaient sans doute très liés entre eux. Il pouvait s'agir des membres d'une même famille, parce qu'on n'obtenait aucune information.
Les agents espéraient trouver un indice à travers les décombres qui leur permettrait d'identifier le coupable.
À la fin des 40 jours de recherche, on avait recueilli près de 50 kilos de la bombe qui, selon nous, devait peser plus de 350 kilos. On en avait donc environ un huitième. Les pièces qu'on avait recueillies étaient principalement des pièces en acier qui avaient résisté à la détonation.
Les pièces furent acheminées au labo du FBI à Washington dès qu'elles furent recueillies. C'était la première fois que les experts pouvaient vraiment analyser la bombe.
On a pu déterminer le genre d'interrupteur qui avait été utilisé. C'était des interrupteurs à mercure. On connaissait aussi le genre d'explosif. De plus, on avait trouvé des morceaux de carton, des éléments qui pourraient peut-être nous dire où et comment l'engin avait été construit.
L'examen en laboratoire permit aux agents de découvrir enfin quelque chose sur l'auteur de la bombe.
Une des premières choses qu'on a faites, ça a été de demander à un expert en métallurgie d'examiner les composantes de la bombe et de mesurer les chocs subis par les pièces de métal d'un point de vue métallurgique. On voulait qu'ils nous disent quel genre de choc la détonation leur avait fait subir. Ainsi, on saurait quel genre d'explosif avait été utilisé. La lettre de menace disait qu'il s'agissait de TNT, mais on devait malgré tout faire des vérifications. On voulait voir si ces dommages pouvaient avoir été causés par du TNT, ce qui n'était pas le cas. On a ainsi su quelque chose à propos de son auteur. Il nous avait menti dans sa lettre. Il nous avait menti pour capter notre attention.
L'auteur de la bombe avait utilisé de la dynamite plutôt que du TNT. En faisant croire aux enquêteurs que la bombe contenait du TNT, il leur avait fait craindre le pire.
Son plan était très élaboré. En examinant l'engin, on voyait bien que le type avait travaillé très fort et qu'il était très patient. Il n'avait pas construit cette bombe en un seul jour. Cette bombe avait demandé plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'efforts. Et le fait qu'il l'ait construite sans attirer l'attention sur lui indiquait, à mon sens, qu'il avait mis encore plus de temps à la faire.
Pour tenter d'en apprendre un peu plus sur l'auteur de la bombe, les agents demandèrent l'aide du service des sciences comportementales du FBI à Quantico. Les experts établirent que l'auteur de la bombe était dans la trentaine avancée ou le début de la quarantaine et qu'il s'y connaissait dans la façon de construire une bombe. Compte tenu de la complexité de l'engin explosif et de la teneur de la lettre, L'homme était vraisemblablement un égocentrique, convaincu de pouvoir déjouer les enquêteurs.
Il est difficile de dresser le portrait de l'auteur d'une bombe. Ce n'est pas comme pour un meurtrier qui laisse derrière lui des empreintes sur la scène du crime. La construction d'une bombe demande beaucoup de préparation. Quand vous tirez sur quelqu'un, vous posez un geste personnel, alors que pour un attentat à la bombe, vous quittez les lieux et n'avez pas à assister à la scène.
L'homme n'aimait pas être proche de ses victimes. Les agents soupçonnaient également que le mobile du crime n'était pas que le gain d'argent.
Était-ce un attentat terroriste? Quel était le but de ce crime en particulier? Était-ce seulement l'argent? Est-ce que ces gens étaient reliés au trafic de stupéfiants? S'agissait-il de membres du crime organisé, de la mafia? On ne croyait pas que le crime organisé aurait pu faire ça. On ne croyait pas que les trafiquants de drogue auraient pu commettre un tel crime non plus. Ces types n'aiment pas attirer l'attention sur eux.
Les enquêteurs étaient à court de pistes et l'auteur de la bombe n'hésiterait pas à recommencer. À Reno, à 65 km au nord de State Line, quatre autres casinos furent l'objet de menaces d'attentats à la bombe. À State Line, au Nevada, le FBI était à la recherche d'un dangereux criminel. Celui-ci avait fait exploser un casino et menacé de recommencer dans sa lettre d'extorsion. Le FBI craignait que l'auteur de la bombe ne soit en train de se moquer d'eux. À 65 km au nord, soit à Reno, quatre autres casinos furent l'objet de menaces d'attentats à la bombe. Les enquêteurs fouillèrent les lieux mais ne trouvèrent aucune bombe. Une enquête ultérieure permit de découvrir que ces menaces n'avaient aucun lien avec l'attentat du Harvey's Casino. Les agents firent de nouveau appel à l'aide du public. Ils diffusèrent des descriptions des suspects basées sur les descriptions fournies par le gardien de sécurité des lieux. Voici l'agent spécial Herb Hawkins.
On était submergés de milliers d'appels.
Au début du mois de septembre, les agents reçurent un renseignement intriguant. Trois ex-employés d'une usine de construction d'avions à réaction avaient déménagé à Reno juste avant l'explosion du casino. Selon le labo du FBI à Washington, certaines composantes électroniques utilisées dans la bombe ressemblaient à des pièces d'avion. Des ingénieurs en aéronautique avaient certainement les connaissances requises pour mettre au point un tel engin explosif. L'agent spécial Bill Junkie.
Ils correspondaient à ce qu'on cherchait. Ils formaient un petit groupe. Ils avaient accès à du matériel explosif et possédaient une certaine expérience dans le domaine. C'étaient des suspects très prometteurs. On a passé plusieurs heures à enquêter sur ces types et à explorer des pistes qui s'étendaient à l'échelle du pays. On a consacré beaucoup de ressources pour enquêter sur ce groupe pendant 2 ou 3 semaines avant de finalement l'écarter de notre liste de suspects.
Il s'agissait d'une autre impasse. Quant à l'auteur de la bombe, il gardait le silence. Résolu à trouver des pistes, les enquêteurs relurent toutes les informations reçues par téléphone depuis l'explosion. L'agent spécial Herb Hawkins dut analyser plusieurs milliers de notes. Le 1er octobre, une information en particulier retint son attention. La propriétaire d'un motel avait vu une camionnette blanche quitter son établissement de South Lake Tahoe une heure avant que la bombe ne soit laissée au casino. Or, grâce aux témoins oculaires, on savait que la bombe avait été livrée dans une camionnette blanche. Hawkins croyait qu'il ne pouvait s'agir d'une simple coïncidence.
En lisant ces informations recueillies grâce à les lignes téléphoniques, j'ai constaté qu'aucun des enquêteurs ne les avait remarquées. Ces informations dataient maintenant d'un mois. On devait absolument explorer cette piste.
Les agents interrogèrent la propriétaire du motel qui avait transmis les informations. Le 26 août, vers 4 heures du matin, elle avait entendu des bruits étranges provenant de l'aire de stationnement du motel.
Une fois réveillée, elle est allée voir par la fenêtre d'où elle a vu 2 ou 3 individus portant des salopettes blanches essayant de faire démarrer une camionnette blanche. Elle a noté le numéro de la plaque d'immatriculation pour s'assurer que c'était bien celui qu'elle avait noté sur la carte d'enregistrement de ses clients.
Le lendemain, elle avait appelé le FBI au numéro de téléphone transmis par les médias. Les agents constatèrent que le nom sur la fiche d'enregistrement du motel était un faux nom. Ils vérifièrent le numéro de la plaque d'immatriculation de la camionnette blanche auprès de la régie des véhicules de la Californie.
L'information qu'on a obtenue de la régie, c'était que le véhicule était enregistré au nom d'un certain John Burgess, qui vivait à Clovis, en Californie, juste à côté de Fresno. Immédiatement, des agents de Fresno sont allés rendre visite à M. Burgess. Ils voulaient lui demander pourquoi sa camionnette s'était retrouvée à Lake Tahoe avec trois hommes suspects à bord.
Burgess déclara aux agents qu'il ignorait de quoi il parlait. Il était bien propriétaire d'une camionnette blanche, mais c'était son fils qui l'utilisait le plus souvent.
On a été incapable d'obtenir des informations de la part de M. Burgess, si ce n'est le fait que son fils conduisait le véhicule et que celui-ci pouvait être impliqué dans la culture de marijuana.
Les agents interrogèrent alors le fils de Burgess à Fresno. Ils lui demandèrent ce qu'il faisait à Lake Tahoe à 4 heures du matin et pourquoi il avait mis un faux nom sur sa fiche d'enregistrement.
Le jeune homme a dit aux enquêteurs qu'il était allé à Lake Tahoe car il cherchait un endroit pour faire la culture de marijuana. Les agents savaient très bien que Lake Tahoe se trouve à 1900 mètres d'altitude. Ce n'est vraiment pas l'endroit rêvé pour la culture de marijuana en raison du climat de cette région. La raison qu'il leur avait donnée était donc plutôt suspecte.
Les agents soupçonnaient le fils de Burgess de mentir, mais ils ignoraient pourquoi. Ils ne le croyaient pas capable d'avoir fabriqué la bombe. À 18 ans, il n'avait assurément pas les compétences pour construire un engin d'une telle complexité. Les agents poursuivirent leur enquête à la recherche d'autres pistes prometteuses.
L'enquête de cet attentat n'en finissait plus. On a dû interroger plus de 400 suspects un peu partout à travers le pays.
L'explosion avait causé des dommages estimés à 3 millions de dollars. L'auteur de cet attentat devait absolument être arrêté avant qu'il ne construise une autre bombe. Malheureusement, les agents étaient à court de pistes. L'auteur de la bombe était inactif depuis plusieurs mois. Au mois de novembre, tous les agents sauf 16 furent renvoyés à leurs bureaux respectifs. L'enquête piétinait. Le FBI tenta alors une nouvelle approche.
Au début de 1981, on s'est dit qu'il serait peut-être temps d'augmenter la récompense. On l'a alors fixée à 500 000 $. Elle est ainsi passée de 250 000 à 500 000 $.
Même si un groupe très uni était responsable de l'attentat à la bombe, le FBI croyait que la perspective de toucher un demi-million de dollars serait assez séduisante pour obtenir des résultats.
Quand on a effectivement disposé de ces 500 000 $, on a demandé aux médias de diffuser la nouvelle. On a tenu une conférence de presse et ça a bien fonctionné.
Le pari du FBI porta fruit.
À peine quelques jours plus tard, on a reçu un appel. Un jeune homme avait appelé les agents du FBI de Fresno pour leur dire qu'on avait été sur la bonne piste, mais qu'on ne s'était pas arrêté sur la bonne personne. Il nous a révélé que ce n'était pas le fils de M. Burgess qui aurait dû nous intéresser, mais bien John Burgess lui-même. Selon cette source, c'était John Burgess, le père, qui était responsable de ce crime.
Cette hypothèse était plausible. Même si John Burgess n'avait pas exactement le profil d'un suspect, les agents n'avaient jamais pu s'expliquer pourquoi son fils se trouvait à Lake Tahoe au moment où la bombe avait été livrée. En l'espace de quelques jours, l'enquête se déplaça de Stateline au Nevada à Fresno en Californie.
Même s'il y avait déjà un bureau à cet endroit, on a ouvert un autre bureau et fait venir 30 ou 40 agents afin qu'on puisse se concentrer sur John Burgess. Personnellement, je croyais qu'on tenait le coupable. Il s'agissait d'une famille. L'homme avait deux fils qui pouvaient l'avoir aidé et qui ne voulaient pas la récompense. Ils avaient préféré garder le silence selon toute vraisemblance. Je suis parti pour Fresno avec beaucoup d'enthousiasme. Je croyais qu'on le tenait.
Le FBI soupçonnait John Burgess père d'être l'auteur de la bombe. Mais il devait trouver des preuves de sa participation dans ce crime pour pouvoir l'arrêter. Un important casino était en ruine, détruit par une explosion. le FBI soupçonnait John Burgess, un entrepreneur en aménagement paysager, d'avoir orchestré cet attentat à la bombe. L'agent spécial Bill Jahnke.
L'enquête portant sur John Burgess portait sur tous les points possibles. On a interrogé ses proches parents, ses amis, on l'a mis sous surveillance nuit et jour. On a vérifié ses antécédents et examiné le profil des gens qui travaillaient pour lui.
Burgess avait un passé intéressant, selon l'agent spécial Herb Hawkins.
C'était un immigrant hongrois qui s'était mis les soviétiques à dos pendant la Révolution hongroise. Il s'était retrouvé dans un camp de travail où il avait manipulé beaucoup d'explosifs.
Lors de nombreux interrogatoires, les agents apprirent que Burgess avait des ennuis financiers. En mars 1980, le ministère du Revenu avait intenté une poursuite contre lui pour le défaut de paiement de 34 000 $ en impôts. Il devait également 15 000 $ au Harvey's Casino pour des dettes de jeu.
Les dettes de jeu dont il nous a parlé et qu'on avait déjà notées en vérifiant dans les registres du casino n'en faisaient qu'un suspect encore plus intéressant. Depuis le début, on croyait que le type qui avait fait ça en voulait au Harvey's Casino et qu'il lui devait de l'argent ou qu'il en avait beaucoup perdu à cet endroit. Cela correspondait donc parfaitement au profil qu'on avait dressé de l'auteur de cette bombe.
Les agents croyaient que John Burgess avait les connaissances requises et le mobile pour attaquer le casino. Maintenant, il devait en faire la preuve.
Un agent et moi-même avons été assignés à contacter M. Burgess tous les jours, 7 jours par semaine. On lui rendait visite et on lui parlait. On voulait l'amener à parler. Certains jours, il hurlait et ne voulait pas nous faire entrer chez lui, alors que d'autres jours, il nous faisait entrer et acceptait de nous parler.
Burgess était très égocentrique. Il aimait parler de sa fructueuse entreprise d'aménagement paysager et de ses connaissances en électronique. Les experts ne s'étaient pas trompés.
Les choses se mettaient peu à peu en place relativement à ses antécédents. Maintenant, on devait découvrir où, à Fresno, il avait pu construire l'engin explosif et acheter les composantes requises.
Lors d'un attentat à la bombe, la première chose que l'on fait, c'est de voir s'il y a eu des vols dans la région et d'où les composantes de la bombe viennent. Les suspects peuvent les avoir construites, les avoir volées ou les avoir achetées. On commence donc par vérifier les rapports de vol.
Les agents apprirent qu'on avait volé environ 500 kilos de dynamite sur un chantier de construction près de la maison de Burgess, peu de temps avant l'attentat à la bombe au casino.
Le puzzle commençait à prendre forme. Il était maintenant temps d'amener les proches du suspect à nous parler.
Les agents interrogèrent un des membres éloignés de la famille de Burgess qui était propriétaire d'une importante ferme d'élevage de dindons près de Fresno. Ils étaient particulièrement intéressés par les interrupteurs sur son appareil de distribution de moulée construit par Burgess lui-même.
Il avait été construit selon le même modèle que la bombe. C'était le même type de plastique utilisé et les soudures étaient identiques elles aussi.
Les agents exercèrent de la pression sur les fils de Burgess et ils parvinrent finalement à les convaincre de parler.
Les versions des deux fils étaient identiques. Leur père leur avait demandé de participer à cette tentative d'extorsion. Les deux fils n'étaient pas très excités par cette idée. Ils auraient préféré ne pas le faire. Mais ils devaient respect à leur père. Et ils l'ont aidé à quelques reprises.
Un des fils de Burgess reconnut qu'il n'avait jamais fait la culture de marijuana. Il avait inventé cette histoire pour protéger son père. Le FBI apprit ensuite que 2 employés de Burgess avaient livré la bombe au Harvey's Casino. Les fils du suspect ajoutèrent que c'était la petite amie de leur père qui avait rédigé la lettre d'extorsion. Ils indiquèrent ensuite aux autorités l'endroit où leur père avait caché le reste de la dynamite qu'il avait volée.
Ils nous ont également fourni de l'information sur d'autres vols d'explosifs qui avaient été commis sur le même chantier et nous ont dit où ces explosifs avaient été enterrés. Près de 300 kilos de dynamite avaient été enterrés dans le lit asséché d'un ruisseau près de Fresno. Monsieur Burgess avait dit à ses fils qu'il comptait construire une autre bombe et la poser à un autre endroit.
Le 16 août 1981, John Burgess fut arrêté alors qu'il quittait sa maison. Burgess et ses complices furent accusés de tentatives d'extorsion et de complot. Les fils de Burgess plaidèrent coupables et écopèrent d'une sentence de liberté surveillée. Le 15 avril 1985, John Burgess fut reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le FBI a perdu un immeuble, mais l'opération a été réussie. Il n'y a pas eu de perte de vie et l'on a capturé l'auteur de la bombe avant qu'il ne récidive.
On en a appris beaucoup à propos des attentats à la bombe sur de gros immeubles. On sait maintenant ce qu'il faut faire en premier lieu, en second lieu et en troisième lieu. On connaît les dangers que cela représente. Malheureusement, depuis cet attentat, on a eu l'occasion à quelques reprises de mettre nos connaissances à profit à travers le monde, aussi bien que d'en acquérir de nouvelles.